Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal présenté par Patience Ngaloula.
Au sommaire de cette édition d'information, la gratuité de la maternité est désormais effective dans la zone de santé de Beni au Nord Kivu. 24 centres de santé et 5 autres centres hospitaliers sont retenus pour offrir ces services, affirme Dr Kasereka, médecin-chef des zones de santé de Beni. La mission d'observation Regard Citoyen s'est dit préoccupée du report des élections locales par la CENI. Pour cette structure, ces reports inédits ralentissent les processus de décentralisation et freinent la démocratie et la gouvernance locale, pourtant bien relancée par la tenue des élections municipaux. Véronique Atanjo, inspectrice principale de la province éducationnelle du Congo central 2, est l'invitée de ce journal. Préoccupée par la faible participation des élèves finalistes à l'examen d'État dans les filières de développement, elle motive finalistes et parents à s'intéresser à ces branches en vue de lutter contre la faim et la malnutrition au Congo central. Ouvrons ce journal par cette bonne nouvelle. Elle concerne la gratuité de la maternité dans la zone de santé de Beni. Selon le médecin-chef des zones de Beni, 24 centres de santé et 5 autres centres hospitaliers sont retenus pour offrir ces services de maternité. Le docteur Kasereka Tosalisana donne des précisions sur cette activité dans ses propos recueillis par Marc Marofimbo.
Le gouvernement a prévu que les problèmes de la grossesse, de l'accouchement et du nouveau-né, et jusqu'à un mois de naissance, soient pris en charge par le gouvernement congolais et qu'ils soient subsidiés par ce dernier. Évidemment, par rapport à la CPN, les interventions sont aussi concernées, mais à une seule condition, que les femmes se présentent dans le délai requis, à des périodes précise. Au niveau de la zone santé de Beni, aujourd'hui, il y a 25 aires de santé, mais la sélection a retenu 24 aires de santé qui vont offrir ce paquet pour la maternité au niveau du paquet minimum d'activité à la population d'utiliser les établissements de soins qui ont été ciblés. Et s'il y a des observations à faire, c'est mieux d'approcher les prestataires et nous leurs responsables parce que nous voulons aussi que ce soit des prestations de qualité.
Pendant ce temps, la maladie des monkeypox, dit variole des singes, est déclarée au Nord Kivu. Apparue depuis le 2 juin courant à ces jours, le gouvernement provincial confirme 8 cas signalés dans 3 zones de santé. C'est notamment la zone de santé de Nyiragongo avec 5 cas signalés, celle de Goma 2 cas et la zone de santé de Karisimbi 1 cas. Pour le gouvernement provincial, cette maladie est très dangereuse et extrêmement contagieuse. Elle constitue un risque élevé de contamination pour la population de la ville de Goma et ses environs. En matière de protection de cette maladie, le gouvernement provincial et ses partenaires recommandent une série de mesures de prévention. On écoute Mme Prisca Kamala, conseillère du gouverneur en matière de santé, dans cet extrait choisi par Denise Loukesso.
Au jour d'aujourd'hui, 8 cas sont signalés. Les Mpox se manifestent chez les humains par une forte fièvre d'apparition brutale, des éruptions cutanées. Ces lésions débutent au niveau des paumes de main et les plantes des pieds et peuvent même se généraliser sur tout le corps. Pour la protection contre les Mpox, évitez tout contact physique et ou sexuel avec toute personne qui présente les signes de Mpox ou tout autre liquide provenant des personnes malades. Sang, urine, salive, vomissure, sueur et sperme. Lorsque vous-même présentez les signes suspects de Mpox, en cas de contact avec une personne ou animal suspect de Mpox, lavez-vous immédiatement les mains, puis rendez-vous au centre de santé le plus proche.
Dans le même chapitre, l'hôpital général de Sekebanza, en territoire portant le même nom, éprouve des difficultés de fonctionnement par manque de bâtiments d'hospitalisation. Dominique Tomo Sassi, médecin chef de staff de cette formation médicale qui livre l'information, indique que les malades sont hébergés dans une promiscuité totale. Il appelle le gouvernement à penser à construire des bâtiments dans cet hôpital pour prévenir la propagation des maladies infectieuses. Dominique Tomo Sassi est au micro de Nana Plurich Mambou.
Oui, à l'hôpital, nous avons plus ou moins 5 bâtiments. Ce sont des petits bâtiments. Alors, nous avons des difficultés pour hospitaliser les malades. Ailleurs, c'est un hôpital général, on devrait parler de département. Mais suite à l'insuffisance des bâtiments, ici, on parle des services. En principe, on devrait séparer. Ici, c'est la médecine interne. Là-bas, hommes et femmes. Et de l'autre côté, c'est la chirurgie hommes et femmes. Mais parfois, on les mélange. Or, ce n'est pas cohérent. Il y a des maladies infectieuses. Ce sont des malades qui devraient être hospitalisés dans un bâtiment, les tuberculés. Mais nous sommes obligés parfois de les confiner dans une même salle avec les autres malades. Oh, ce n'est pas cohérent. Donc, l'État congolais, qui est le responsable numéro un de cet hôpital, doit nous venir en aide. Il n'y a qu'un seul bâtiment qui a été construit par l'État depuis 1945. Et le bâtiment est délabré. Ouais. Les autres bâtiments, ce sont des bâtiments qui ont été construits par l'effort de l'hôpital et les partenaires qui nous venaient en aide, les CTB, les Médecins sans frontières. Par rapport à la technique, nous manquons aussi certains matériels. Nous avons les appareils d'échographie, la radiologie, mais ce sont des appareils qui datent de longtemps. Or, la technologie se développe du jour au jour.
Je le disais en titre, la mission d'observation Regard Citoyen affirme sa préoccupation du report des élections des conseillers urbains, bourgmestres et bourgmestres adjoints des communes. Dans son communiqué, dont une copie est parvenue hier mardi à Radio Capi, cette structure citoyenne s'inquiète que l'opinion ne soit pas fixée sur la date réelle de la tenue de ces scrutins. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Pour la mission d'observation Regard Citoyen, ces reports inédits ralentissent les processus de décentralisation et freinent la démocratie et la gouvernance locale, pourtant bien relancée par la tenue des élections municipales. Cette organisation citoyenne est d'avis que la dissymétrie entre les institutions locales, à savoir conseillers communaux et bourgmestres non élus, est porteuse des germes des conflits. Elle recommande que celle-ci soit rapidement corrigée dans l'intérêt de la gouvernance locale. C'est ainsi que la mission d'observation Regard Citoyen invite le gouvernement de la République à s'investir pour remédier au déficit financier à l'organisation des scrutins épinglés par la CENI pour justifier la non-poursuite de la mise en place des exécutifs communaux. À la CENI, il est demandé de rendre public son chronogramme opérationnel et son calendrier réaménagé des élections en mettant en priorité les élections des bourgmestres. Enfin, cette organisation citoyenne s'est comptée sur la bonne volonté de toutes les parties prenantes au processus électoral pour enraciner la démocratie en RDC. Pour rappel, la Commission électorale nationale indépendante avait dit manquer des moyens pour organiser ces élections, alors préalablement fixées au 19 juin courant.
Tête à tête, hier mardi, entre le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et celui du bureau d'âge du Sénat Pascal Kindwelo. Les échanges ont tourné autour des activités parlementaires de deux chambres. Occasion pour le président de la Chambre haute du Parlement de féliciter les travaux abattus par le bureau de la Chambre basse au cours de la session de mars. Pascal Kindwelo a aussi tenu à informer son collègue Vital Kamerhe du bon avancement du processus qui va mettre en place le bureau définitif au niveau du Sénat. Notez que ce tête-à-tête est un exercice ordinaire et régulier étant donné que la République démocratique du Congo a un parlementaire bicaméral. Dans les territoires de Beni, la coordination de la nouvelle société civile congolaise du secteur Rouenzori dénonce la destruction méchante des lampadaires installés par la MONUSCO sur plusieurs axes dans ces secteurs depuis 2 mois. Pour son coordonnateur qui appelle la population à identifier les auteurs, cet acte de vandalisme de biens publics doit être condamné et puni. Marc Marofimbo pour des précisions.
Selon la nouvelle société civile congolaise du secteur de Rwenzori, qui lance cette alerte, c'est depuis 2 mois que des dizaines de lampadaires installés par la MONUSCO pour l'éclairage public dans le cadre de la lutte contre les sécurités dans cette zone sont volés par des inconnus. Cette structure citoyenne précise que ses biens publics sont volés la nuit sur les axes Bukoma-Kasusu, Mutuanga-Bulongo, mais aussi dans la localité de Kakalari sur l'axe Mutuanga-Mwenda. Selon ce coordonnateur, des enquêtes doivent être menées par les services compétents afin espérant d'identifier les auteurs de ces actes de vandalisme pour qu'ils subissent la rigueur de la loi. Meleki Moulala.
Ça fait au moins 2 mois qu'on est en train de constater cela et malheureusement, sous les yeux impuissants de certaines personnes qui sont censées faire le suivi des biens publics. Tout le monde doit s'impliquer pour que les biens publics soient sécurisés, mais nous condamnons cela et nous appelons la jeunesse à la retenue, mais aussi à continuer à dénicher les auteurs de ces actes pour qu'ils soient punis sévèrement selon la constitution congolaise.
Meleki Moulala ajoute que depuis la disparition de ces lampadaires sur les axes cités, les cas de banditisme nocturne ont refait surface. Il demande à la jeunesse de cette entité de doubler de vigilance pour protéger ce bien public. Beni Marc Marufimbo, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, les habitants de Mbujimayi se réjouissent de l'installation de l'éclairage public sur les avenues Maurice Tshikui et du lycée Mwanjadi dans la commune de Dibindi. Ces deux artères reçoivent depuis quelques semaines les poteaux qui transportent les lampadaires solaires posés par l'entreprise de construction Safrimex chargée de moderniser 35 km de la voirie urbaine de Mbujimayi. Esther Dalafina pour les reportages.
L'avenue Maurice Tshikui, qui passe devant le bureau du groupe mobile d'intervention de la police nationale congolaise, est désormais éclairée par les lampadaires solaires, comme l'explique ici Jean-Félix Mutombo, chef de service technique à l'office des voiries et drainage OVD.
Il faut que ça puisse éclairer toutes les avenues sur lesquelles il est en train de travailler.
Cet éclairage public réjouit plusieurs habitants de Mbujimayi.
Du côté Mwanjadi, il y avait des bandits qui tracassaient des gens à partir de 18h quand il fait noir. Maintenant, avec l'éclairage, c'est bien. Nous pouvons dormir et marcher sans problème. Nous pouvons voir les risques qui peuvent arriver de loin, même les voleurs, même quoi on peut voir.
Maintenant, on dort même à 22h, 23h, 0h.
L'office des voiries et drainage OVD qui supervise les travaux indique que Safrimex va également tracer les marquages au sol sur les artères déjà modernisées.
Il y a des travaux connexes qui sont aussi concernés. Mais il y a aussi les marquages au sol dans tous les différents traits, dans les peintures, pour mettre les chaussées là dans ces emplois.
Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
En Ituri, la production des poissons a sensiblement diminué au lac Albert et certaines rares espèces qui restent sont également menacées d'extinction. Cela suite au non-respect de la réglementation de la pêche due au laxisme des services spécialisés et l'absence de l'autorité de l'État dans plusieurs localités lacustres. C'est le constat fait par l'Association des pêcheurs au lac Albert à l'occasion de la Journée nationale des poissons célébrée lundi en RDC. Isaac Remoyope.
La production journalière des poissons est estimée actuellement à 10 voire 20 kg par pirogue au lac Albert, contre au moins une centaine par jour il y a quelques années, rapporte l'association des pêcheurs au lac Albert à Kasséni. Cette structure déplore aussi la disparition d'environ 40 espèces de poissons contre 53. Son président attribue cela à la surexploitation du lac. Il précise que plus de 10 000 pêcheurs sont enregistrés actuellement dans tous les camps de pêche dans les territoires de Djougou, Irumu et Mambasa traversés par les lacs Albert, ce qui fait une moyenne de 60 pêcheurs pour 1 km contre 5 pêcheurs pour 1 km à l'époque coloniale. L'utilisation des filets à mailles prohibés, dont des moustiquaires et autres pratiques illicites de la pêche, ainsi que l'évasion des zones de reproduction des poissons par les pêcheurs, constituent les principales causes de baisse de production. Cette structure demande au gouvernement d'imposer l'autorité de l'État dans toutes les localités lacustres, dont la plupart sont actuellement contrôlées par les groupes armés au mépris total de la loi. Les chefs des divisions de pêche à Ituri déclarent qu'il revient au gouvernement de prendre des mesures contraignantes avis d'éradiquer toutes les irrégularités au lac Albert. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Retournons dans la ville de Beni, où les agents de la société Enzyme Raffinaire et Association Enra Beni observent un sit-in depuis jeudi passé dans les installations de leur société. Ils réclament le paiement de 22 mois d'arriérés des salaires et disent être à bout de patience après plusieurs promesses non tenues de leurs employeurs. André Kitenge pour les détails.
Au moins 100 agents et dépendants de cette entreprise qui s'occupe entre autres de l'exploitation forestière observaient un sit-in dans les installations de leur société depuis jeudi soir. Ils y ont passé la nuit à même le sol pour revendiquer le paiement des arriérés de leur salaire de 22 mois. Portail principal fermé, des barricades érigées dans les installations, ces agents en colère ont paralysé toutes les activités de leur société. Selon le président du syndicat, cela fait 6 mois que leur employeur promet de régulariser la situation sans succès. Ezekiel Kambale Mamboleo explique.
Nous lui demandons de nous payer nos arriérés de salaire. Comme il a bloqué nos arriérés de salaire de 22 mois, d'plus de 2 ans maintenant, nous jugeons bon venir rester ici, qu'il nous prenne en charge puisque c'est lui qui gère notre argent.
Ils ne sont pas seuls ces agents, ils sont accompagnés de leurs épouses et enfants. Ezekiel Kambale Mamboleo encore.
Le salaire ayant un caractère alimentaire accompagne toute la famille. Comme c'est toute la famille qui a bénéficié, raison pour laquelle nous sommes venus avec nos familles, ils sont venus compatir avec nous pour demander réellement qu'on nous paie nos arriérés de salaire.
Contacté par Radio Okapi, José Augusto, le directeur financier de la société Enera Beni, s'est réservé de tout commentaire. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Actualité internationale.
La CPI a émis mardi des mandats d'arrêt contre le chef de l'armée russe et l'ex-ministre de la Défense. Valery Gerasimov et Sergueï Shoigu sont tous deux accusés d'être responsables des crimes de guerre consistant à diriger des attaques contre des biens civils et à causer des dommages accidentels excessifs à des civils ainsi que du crime contre l'humanité en Ukraine. La cour qui siège à la Haye considère qu'il existe des motifs raisonnables de croire que les deux suspects portent la responsabilité des frappes des missiles menés par les forces armées russes contre les infrastructures électriques ukrainiennes entre les 10 octobre 2022 au moins et les 9 mars 2023 au moins. Kiev a rapidement salué cette décision quand, de leur côté, les autorités russes l'ont jugée insignifiante.
L'invité.
Véronique Atandio, inspectrice principale de la province éducationnelle du Congo central 2, est l'invitée de ce journal, préoccupée de la faible participation des élèves finalistes des examens d'État dans les filières de développement telles que l'agriculture. Elle essaye de motiver finalistes et parents de ces derniers à s'intéresser à ces branches en vue de lutter contre la faim et la malnutrition au Congo central. Véronique Atandio s'entretient avec Nana Plurich Mambou.
Madame Véronique Atandio, dans votre adresse lors du lancement de l'examen d'État, vous avez dégagé un aspect important sur la faible participation des élèves dans deux branches de développement dans votre province éducationnelle. Aujourd'hui, quelle est votre opinion par rapport à ces constats?
Le constat, c'est celui-ci. L'enseignement technique, oui, nous avons besoin des électriciens, nous avons besoin des mécaniciens, nous avons besoin des couturiers, nous avons besoin des nutritionnistes, nous avons besoin de tous ces techniciens. Mais la crainte, c'est que notre province à nous est purement agricole. Partout où vous passez, vous trouvez un champ. Si ce n'est pas un champ, en tout cas un potager. Et pour que ça soit bien fait, ces champs doivent être cultivés dans les normes et même les jardins potagers doivent être cultivés aussi dans les normes. Mais on a constaté que très peu d'enfants viennent poursuivre l'enseignement technique agricole où ils seront formés comme des techniciens en agriculture et à faire cette agriculture suivant les normes. Et aussi, non seulement qu'on produise, mais la transformation. Parce que vous avez compris que pour l'industrie agricole, nous n'avons que 53 candidats. Donc, nous ne pouvons pas voir d'ici là tous nos produits agricoles être transformés. Notre souci, c'est bien produire et aussi les transformer. Alors que nous avons la terre arable, nous avons des structures qui nous encadrent, qui pouvaient bien faire en sorte que l'agriculture marche, produise et que la province puisse même exporter. Nous avons constaté ça et ça nous a tiqué.
Ça vous a tiqué, madame, mais selon vous, qu'est-ce qui empêche les enfants à manifester de l'intérêt pour les filières de développement? Et comment peut-on y remédier?
Nous avons hérité d'une situation où les gens pensent que pour qu'on se dise intellectuel, il faut être au bureau. Et je pense que c'est ce qui justifie même notre tâtonnement dans notre développement, parce qu'on avance d'un pas, mais on recule de deux pas, parce que jusque-là, les parents eux-mêmes n'ont pas encore compris que l'enseignement technique est très important et que c'est bénéfique pour les enfants. Mais même les enfants eux-mêmes se sous-estiment quand ils font l'enseignement technique. C'est comme s'ils ne sont pas intelligents et ils pensent que pour se dire intellectuel, il faut se trouver au bureau. Alors nous pensons qu'il faut aller avec la sensibilisation auprès des parents qui des fois détournent les enfants et auprès des élèves eux-mêmes. Et cette sensibilisation, nous devons la commencer à partir du primaire. Parce que déjà, au niveau primaire, l'enfant peut avoir une vision. Et c'est comme ça qu'à ce niveau-là, nous pouvons déjà commencer à orienter la vision de l'enfant. Mais c'est plus au niveau des cycles terminaux de l'éducation de base. Les enfants de 7e ou 8e, à l'issue de ce cycle, il y a l'orientation pour que les enfants eux-mêmes, pendant les tests d'orientation, quand ils vont répondre aux questions liées au test de d'intérêt, qu'il manifeste l'intérêt vers l'agriculture. Et quand on dit agriculture, c'est pas seulement prendre la hausse. J'ai cité 5 options. Dans les filières agricoles, il y a l'agriculture générale, il y a la vétérinaire, il y a la nutrition, il y a l'industrie agricole. Et dans d'autres provinces, il y a d'autres filières comme la pêche.
Que recommandez-vous aux parents et aux enfants eux-mêmes?
Mes chers amis, mes chers frères et sœurs parents, je vous demande de ne pas désorienter les enfants, de faire voir aux enfants que l'agriculture paye. Nous voyons des jeunes gens qui n'ont pas étudié, mais qui se débrouillent avec le potager, mais chaque jour ils ont de l'argent. Il ne faut pas décourager un enfant qui opte volontairement vers l'enseignement technique agricole. Et surtout, si vous avez encore des enfants qui doivent étudier, orientez-les plus vers l'enseignement technique agricole pour le développement de notre province. À nos chers enfants, qu'ils sachent que le temps a évolué. Je pense que le monde ne se développe pas seulement par l'administration et le pays a compris ça. Maintenant, il faut aller vers les options porteuses. Les options porteuses sont les options qui offrent encore des opportunités d'emploi. L'emploi, ce n'est pas seulement que vous allez demander l'emploi, mais que vous puissiez aussi créer l'emploi. Aujourd'hui, si vous avez votre champ, des hectares, vous n'allez pas travailler seul. Vous allez engager d'autres personnes avec qui vous allez travailler. Si vous avez votre usine de transformation, vous n'allez pas travailler seul. Et ça, ça lutte déjà contre le chômage et surtout contre la pauvreté et la sous-alimentation. La sous-alimentation, j'ai dit tout à l'heure que nous voulons exporter nos produits. C'est aberrant qu'on parle de la sous-alimentation dans notre province, là où nous avons les potentialités de produire et de nourrir les gens, pas seulement de chez nous, mais d'ailleurs.
Madame Véronique Atandjo, je vous remercie.
Et c'est la fin de cette session de Vos Nouvelles sur Radio Kapi. Billy Landry Betou a assuré sa mise en onde sous la supervision et coordination des Pele Kipe Lamondo. Patience Ngalula Mbombo à la présentation. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous.